Bonjour, bienvenue sur la chronique du Tétalab, le bit et le couteau, donc émission numéro C. Alors aujourd'hui, on a Alex, on a un revenant avec Stéphane, donc bonjour à vous deux.
Bonjour, salut.
Donc aujourd'hui, générique particulier, c'est une reprise de What is Love, superbe morceau des années 90 à partir de disquettes. Donc comme d'habitude, on va faire une partie actu, on va s'écouter un petit morceau et après on aura un petit dossier. Donc on va embrayer sur l'actu. Alors déjà, une actu bien triste, le Trololo Guy est mort. Donc Edward Kill, qui avait 77 ans, ce russe qui avait fait une chanson tout en vocaliste dans les années 60, eh bien est mort. On en avait beaucoup entendu parler parce qu'il était devenu super connu grâce à YouTube et à sa chanson, et c'était devenu même. Donc dans ces cas-là, en général, on fait une minute de silence, et ben là on va faire une minute de Trololo.
Et voilà, donc la petite minute de Trololo, c'est un réel plaisir de entendre ça, qui est désormais la voix d'un chanteur mort. On tient à rappeler en fait qu'on a un pad où les auditeurs peuvent poser des questions, réagir et nous bâcher s'ils en ont envie. Et l'adresse du pad, Alex, c'est
canalsud.tetala.org. Donc vous pouvez y participer juste par le chat ou par en marquant n'importe quoi sur la page. On verra tout de suite ce qui se passe.
Voilà, très bien. On va commencer donc les actus de la journée en parlant d'un changement de stratégie chez Apple, notamment au niveau de la géolocalisation.
Alors Apple a lancé son nouveau iOS 6 avant-hier, je crois, pendant la conférence WWDC. Et pour se décharger de la licence Google qui s'applique à la cartographie chez Google depuis quelques mois, ils sont passés chez OpenStreetMap. Donc c'est OpenStreetMap, si vous ne connaissez pas, c'est une espèce de wiki pour éditer vos propres cartes. Donc vous pouvez aller sur le site openstreetmap.org et donc vous pouvez avoir la carte de Toulouse, n'importe quelle carte dans le monde. Et c'est un petit peu plus complet que les cartes de Google.
Ah, c'est beaucoup plus complet.
Sur certains endroits.
Et vu que c'est collaboratif, dès qu'il y a un chemin, une autoroute ou une piste cyclable qui est mise, ça y est instantanément.
Oui, avec plus de métadonnées aussi. Voilà. C'est-à-dire on peut rajouter les cabines téléphoniques qu'on n'a pas sur Google Maps. On peut rajouter,
voilà, c'est collaboratif. C'est surtout le point de OpenStreetMap.
Sachant que sur Toulouse, il y a une communauté pas mal active de contributeurs d'OpenStreetMap.
Voilà, chez Toulibre, je crois, donc toulibre.org, ils se retrouvent plusieurs fois dans l'année pour aller faire des cartes de la cartographie de Toulouse. Donc c'est assez simple, vous y allez avec vos GPS, vous prenez la trace et après vous pouvez l'importer directement sur le site, c'est assez rapide.
D'accord.
Très bien, on va commencer à parler de sujets sécuritaires, hein, comme d'habitude, donc avec Alex et une petite partie CryptoCat.
Alors CryptoCat, c'est un logiciel que j'avais vu il y a quelques semaines et qui a fait un peu les nouvelles cette semaine. Donc la particularité de l'actualité cette semaine par rapport à CryptoCat, c'est que son développeur principal a été arrêté aux frontières américaines. Donc il a été arrêté par les services de DHS, Department of Homeland Security, pour des questions sur son participation au développement d'un logiciel de messagerie cryptographiée. Donc voilà, ça fait la news, et du coup tout le monde se demande à quoi ça sert ce logiciel, et du coup tout le monde va l'installer parce que c'est quand même super bien.
D'accord, donc, c'est un effet stressant quoi en fait.
Voilà, en arrêtant une personne, on peut faire découvrir les logiciels qu'ils développent. Donc l'avantage de CryptoCat, c'est un logiciel de communication cryptographiée, donc ça vous permet de discuter avec vos amis avec des protocoles de cryptographie par-dessus. Donc au lieu de passer par Facebook, sur le chat de Facebook ou
En gros, toutes vos conversations sont écoutées par Facebook ou pareil sur Gtalk ou sur Gmail. Vous passez par ce logiciel-là et vous donnez un channel à vos amis pour discuter. Et toutes les conversations sont uniquement écoutables par vous ou par la personne à qui vous parlez, ou le groupe de personnes à qui vous parlez. Ça vous permet aussi d'échanger des fichiers sans passer par des serveurs sur lesquels vous avez déposé des fichiers ou vous ne savez pas à qui appartient ces serveurs.
Alors, d'accord. Sachant que ça crypte, donc on ne sait pas ce que vous dites, mais on sait qui parle. Hein. C'est pas un logiciel
voilà,
d'anonymisation.
Alors, c'est pas de l'anonymisation. Ils proposent des solutions pour l'anonymisation. Donc, si vous vous connectez au serveur crypto.cat, CryptoCat, vous pourrez utiliser le logiciel. Et par contre, ils peuvent savoir quelle IP se connecte à ce serveur-là. Donc, déjà, on peut un peu remonter la trace. Ils proposent des solutions, c'est d'utiliser un plugin Chrome pour utiliser directement le logiciel dans votre navigateur ou d'utiliser Tor. Le réseau Tor, on en a parlé quelques fois, c'est un réseau d'anonymisation d'IP où du coup vous vous connectez par une passerelle pour vous connecter au site et dans ce cas-là c'est un peu plus dur de savoir qui se connecte au site.
Très bien, on va continuer à parler à sécurité avec un savoir-faire qui est vraiment, qui est très français ces temps-ci. On en entend beaucoup parler depuis quelques années, ça fait partie du fleuron de l'industrie française, c'est la surveillance de télécommunications. Donc, je ne sais pas pour ceux qui se rappellent, vous avez déjà entendu parler de ce qui s'est passé en Libye, hein, avec le monsieur qui était venu planter sa tente dans les jardins de l'Élysée, et donc il est reparti avec quelques contrats dans les deux sens, donc avec des achats donc, de matériel militaire, et donc un système de surveillance globale de toute la population. On s'est rendu compte, lorsque la Libye a été, le gouvernement libyen a été renversé, que les services secrets libyens donc, utilisaient ce moyen pour traquer les opposants au régime, et donc les fichiers, les emprisonner, donc les torturer, etc. Tout ce qui se fait.
Le système Amesis de la société Bull.
Donc des journalistes du Wall Street Journal avaient découvert que dans les sous-sols du building des services secrets libyens se trouvait donc une pièce avec un gros logo marqué Amesis et un contact bien français, je ne me rappelle jamais son nom mais c'est pas grave. Et Amesis c'est une société française qui s'est fait racheter donc en janvier 2010, qui a intégré le capital de Bull et donc a fait beaucoup parler d'elle à cause de ça, sachant que venant d'un pays qui se dit une démocratie, vendre des outils qui sont utilisés à de telles fins à la Libye notamment, sur la manière dont s'est déroulé le renversement étatique, c'est quand même un peu la honte. Puis ensuite, on a entendu parler d'une société qui s'appelle Cosmos, qui est aussi française, si je ne me trompe pas, et qui fait pareil des outils d'espionnage à grande échelle de toutes les communications, donc pour traquer les mauvais dissidents, mais surtout pour traquer les pédophiles, les terroristes et les nazis qui se cachent derrière chacun, hein, comme on le sait, qui sont les grands slogans du fantôme Internet. Et c'est ainsi donc qu'on apprend que l'Éthiopie, hein, elle aussi, va avoir son petit système d'écoute globale de la population grâce à nos amis de France Télécom. Donc l'opérateur majoritaire éthiopien a été un peu pris en flag.
Qui est le seul sur l'Éthiopie, quoi. Il n'y en a pas d'autre.
Voilà, donc il est plus que majoritaire, il est tout seul.
Voilà, et en fait... Cette boîte appartient à France Télécom.
Voilà, cette boîte appartient à France Télécom. Donc, on avait Amesis, on avait Cosmos, et maintenant, on a aussi France Télécom. Il sera intéressant de savoir d'où vient ce système. Si c'est Amesis qui l'a vendu, si c'est Cosmos.
Je ne sais pas.
Ou est-ce qu'ils l'ont mis en place eux-mêmes, comme des grands.
Il y a une news aussi cette semaine sur Orange qui commence à mettre en place le DPI pour la LOPSI qui sera appliquée en janvier l'année prochaine.
Ah, en France, traîne de l'avance.
En France, ouais. Donc, en annonçant c'est qu'ils attendraient le décret des listes de sites pédophiles avant de l'activer.
D'accord. Ouais, là, surtout, en fait, sur l'Éthiopie, ils ont mis en place le DPI, qui est le Deep Packet Inspection, qui, en gros, pour résumer, c'est regarder les paquets qui transitent sur le réseau. Donc, on va consulter un site, mettons. Ce qui arrive à notre navigateur est fragmenté en petits paquets, et c'est donc récupérer tous ces petits paquets, regarder ce qu'il y a dedans. Et donc, ils l'ont mis ça en place, en fait, sous couvert d'une gestion du réseau. Et donc le fournisseur d'accès là, qui appartient à France Télécom a dit « Ah ben moi il n'y a pas de problème, justement ça me permettra de capter tout ce qui est peer-to-peer, téléchargement illégal ». Et donc bon, ils ont rien dit. Mais bon, il faut savoir qu'en Éthiopie, le débit d'Internet ne doit pas être très élevé, les lignes ne doivent pas être de très bonne qualité. Donc bon, télécharger un DivX qui doit faire presque un gigaoctet, il faut vraiment en vouloir, quoi. Donc, et surtout, en fait, ils ont interdit l'utilisation de Skype parce que enfin, c'est très très difficile en fait à capter les paquets de Skype. Et donc si on utilise Skype en Éthiopie, on est passible de 15 ans de prison, quoi. Donc c'est vraiment c'est n'importe quoi.
Parce que le gouvernement n'a pas moyen de...
Voilà, ils n'ont pas les moyens de contrôler. Donc, ce n'est pas pour du peer-to-peer ou des pédophiles ou toujours la même chose, quoi. C'est pour les opposants et faire comme en Libye, faire comme partout, que le gouvernement reste à sa place et que les autres, ils ferment leur gueule, quoi.
On voit que cette fois-ci, c'est quand même beaucoup plus franc, beaucoup plus mis en avant que c'est pour de la surveillance d'opposants. Parce qu'effectivement, juste dire que c'est pour... réguler les téléchargements parce qu'il y a trop de téléchargements de DivX en Éthiopie, ça ressemble quand même à une grosse blague plutôt qu'à une raison valable.
Non, mais maintenant, en plus, ils se cachent même plus pour mettre en place leur système, là. Ils le disent ouvertement et ça fait peur parce que ça va arriver dans tous les pays. Il y a la Chine qui le font et s'il faut, on l'a déjà en France où on n'en parle pas trop. Ça va venir, quoi.
Surtout qu'en général, c'est des entreprises de monde occidental qui mettent en place ces solutions. Donc,
si une boîte française met ça en place, je sais pas, en Éthiopie, on ne sait pas, mais en Libye, je pense qu'elle a dû le tester à grande échelle. Et comment le tester sur le sol français, c'est toujours plus facile, quoi.
Ça a été reconnu, ouais, qu'elle l'avait testé.
Ça a été reconnu que ça a été fait,
oui,
effectivement.
Ils avaient capté une borne de téléphonie mobile sur les Champs-Élysées.
Et ils surveillaient des opposants libyens aussi qui étaient hébergés en France ou en Angleterre.
Voilà, donc notre spécialité française aujourd'hui, enfin à partir d'aujourd'hui, sera donc les droits de l'homme et la surveillance généralisée de la population et la traque des opposants. Donc on va remercier notre industrie et on va ensuite passer à autre chose.
Une bonne nouvelle un peu, c'est on avait parlé il y a quelques émissions de ça, c'était le... Qu'est-ce que j'ai dit ?
Pardon. Vas-y, continue.
Tu me perturbes là. Le fichier des gens honnêtes, ça a été mis en place sur le gouvernement Sarkozy. En fait, en gros, c'était de ficher toute la population française en passant par la carte d'identité. Et donc, en fait, là, les sages du Conseil constitutionnel ont censuré 6 des 12 articles de cette proposition de loi en partant du fait que... l'atteinte à la vie privée que ça entraînait, arrête de rire, c'est pas possible. Alors, en fait, cette mesure mise en place, elle n'est pas proportionnelle au fait de au but poursuivi. Bon, enfin bref, voilà quoi. Donc, on va s'écouter un petit son et puis on passera au dossier.
Time. that inside of you. Run by run, this race is a prophecy. Run by run, and disappear in the trees. Another day, hey, and you don't have to hide away, yeah. You'll be a man, boy, but for now it's time to run, it's time to run. Tomorrow is another day, hey, when the night fades away, yeah. You'll be a man, boy, but for now it's time to run, it's time to run.
Alors, on vient d'écouter Run Boy Run par Woodkid. Donc, je sais pas si personne a trouvé la référence au jeu vidéo dans cette chanson. Non, vous n'avez pas assez joué à la PlayStation 2. Donc, il y a une grosse référence au jeu ICO, qui est un monument du jeu vidéo sur PlayStation 2. Et en fait, c'est un jeu qui est dans un univers onirique, qui est très beau. Où on incarne un gamin qui a des cornes et qui est rejeté de son village et qui est envoyé dans un château. Et dans ce château, ce gamin, il découvre une petite fille qui parle une langue qui lui est étrangère. Et il va devoir en fait s'échapper du château avec cette petite fille en la tenant par la main. Et tout le jeu en fait se passe dans des décors somptueux. Et il y a une interaction en fait avec cette petite fille qui ne peut pas parler. Et le décor avait des énigmes, tout ça. Donc si vous n'avez jamais joué à ICO sur PlayStation 2, il faut y jouer, quoi. Après, ils ont sorti, la même boîte a sorti Shadow of the Colossus, qui est peut-être un peu plus connu. Où là, en fait, on combat des géants, on monte sur les géants, qui est aussi un jeu dément, quoi. Donc voilà, ça c'était pour un peu la culture vidéoludique.
C'est bien, merci Florent.
On va embrayer sur un dossier sur les imprimantes 3D. Donc les imprimantes 3D, c'est un gros mouvement depuis un paquet d'années. Et surtout dans le monde des hackerspace, on en retrouve beaucoup. Donc en gros, pour d'abord mettre les choses au clair, une imprimante 3D, c'est quoi ? C'est comme une imprimante 2D, sauf qu'on peut imprimer les choses en volume. Un objet en 3D, on pourra l'imprimer en volume. Donc là, pour remontrer un petit peu, j'ai amené des exemples de choses que j'ai imprimées, mais bien sûr, vous ne pouvez pas les voir, donc il n'y a pas grand intérêt.
Ils peuvent les télécharger sur Internet.
Vous pouvez les télécharger sur Internet ou sur le pad qu'on a mis en place, il y aura des liens.
Et Alex est en train d'intégrer des photos pour vous montrer dans le pad de ces objets, ce sera prêt d'ici à 10 secondes.
Voilà, alors l'historique des imprimantes 3D. Donc c'est venu surtout grâce au mouvement RepRap qui a démarré en 2005. Donc c'est un mouvement qui part de trois grandes choses. Déjà, on a eu la notion de constructeur universel de machines autoréplicantes qui avait été établie par John von Neumann en 1940. Le constructeur universel, c'est quoi ? C'est on a une structure en fait qui est très simple et qui va pouvoir recréer d'autres structures ou elles-mêmes se reconstruire, comme en gros un peu le système d'une cellule. Donc après, quand il y a eu cette idée qui est venue, on a souvent eu des gens qui sont pris à rêver que, mettons, on pourrait coloniser Mars en envoyant des machines de la sorte, et elles, sans notre aide, elles auraient pu se dupliquer et construire des structures encore plus complexes, et nous, à terme, on aurait pu habiter sur Mars. Donc il y a cette première idée. Après, il y a le prototypage rapide qui est apparu dans les années 80. Et donc, en fait, ça a été fait par les industriels pour accélérer les processus de design des objets dans les grandes entreprises. Donc, ils ont un modèle 3D et ils le sortent sous une forme physique. Donc,
Faire des maquettes ou pour faire une vue d'un produit. D'accord.
Voilà, donc là, on a plusieurs technologies. Donc on a l'usinage, les CNC, donc on prend un bloc de n'importe quoi, de bois, de plastique, et on va aller l'usiner, le creuser jusqu'à avoir la forme désirée. Donc ça, c'est un processus qui est assez lent et qui consomme beaucoup de matériaux, puisque bon, il faut enlever le matériau. Après, une des technos les plus intéressantes, c'est la stéréolithographie. Et en fait, c'est un bac de résine sur lequel va passer un laser et va faire solidifier couche par couche l'objet à imprimer. Ensuite, on a eu la poudre. En fait, en gros, alors pour expliquer, ça va être un peu chaud. On a un bac de poudre sur lequel va passer une tête d'imprimante à jet d'encre, comme une feuille de papier. Donc, avec cette tête d'imprimante à jet d'encre, à l'intérieur, il va y avoir de l'encre et de la colle. Et en imprimant comme sur une page, l'encre va permettre de coller la poudre sur laquelle c'est imprimé. Ensuite, ce bac de poudre va descendre de quelques dixièmes de millimètre. Et avec une raclette, il y a une couche de poudre qui va être remise au-dessus. Et pareil, ça va réimprimer encore une autre couche. Et ainsi, couche par couche, on va avoir notre objet qui va apparaître. Donc ça, c'est super bien pour des objets précis, mais le désavantage, c'est que c'est de la poudre, et même si elle est collée, c'est pas très solide. Et enfin, celle qui nous intéresse le plus, c'est la technologie par dépose de fil. Donc là, c'est les objets que j'ai amenés. Donc au lieu de coller des couches de poudre, on va avoir un système de pistolet à colle qui, en fait, on prend notre objet 3D, on le découpe comme un salami en tranches verticales, oui, et le pistolet avec la colle va aller déposer couche par couche suivant un tracé défini pour donner naissance à l'objet en 3D. Tout le monde a compris? J'ai été à peu près clair? Oui. Donc on a toutes ces technos qui sont arrivées dans les années 80 et dont les brevets sont tombés dans le domaine public sur les années qui viennent de passer. Et troisième chose, on a tout ce qui est logiciel libre. Dans les années 70, on a Richard Stallman, qui est le gourou du logiciel libre. C'est lui qui l'a démocratisé avec GNU. C'est un barbu aux cheveux longs qui s'est dit « mince ». Le driver de mon imprimante laser, c'est propriétaire, je suis obligé d'acheter un logiciel pour faire tourner mon imprimante. Ah mais tiens, si on développait un driver pour cette imprimante et qu'on le mettait à disposition de tout le monde, et tout le monde peut le modifier. Donc c'est la naissance du logiciel libre. Et avec ça, c'est accompagné récemment d'un mouvement sur ce qu'on appelle l'open hardware, avec tout ce qui est Arduino. Arduino, c'est une carte électronique. Stéphane pourrait en parler mieux que moi.
Oui, bon, après, c'est quelque chose de modulaire, etc. Mais c'est vrai que ce qui est intéressant, en fait, au travers ça, c'est de voir qu'on est dans une première phase où on a des brevets qui tombent dans le domaine public. Entre-temps, en parallèle, pendant de très longues années, le logiciel libre avait commencé à prendre son essor. Et au final, on a une fusion des branches entre du matériel avec des schémas ouverts et disponibles à tout le monde, un logiciel pour le commander qui est libre également, et ensuite des brevets qui sont tombés dans le domaine public. Et là, on a vraiment quelque chose qui peut émerger, tel que ça se fait de plus en plus, à travers donc ces imprimantes 3D qui se démocratisent. Alors j'ai cru comprendre qu'il y avait quelques différences techniques, notamment au niveau de la précision sur ces différentes méthodes d'impression.
Oui, alors là où on a le plus de précision, c'est en stéréolithographie avec de la résine et un laser. Et actuellement même, je comptais en parler plus tard, mais on a une nouvelle techno qui apparaît, c'est en fait avec un projecteur. Au lieu de tracer chaque couche avec un laser, on projette une image sur un bac de résine qui est photosensible à la lumière. Et donc, vu que les projecteurs, qui maintenant, ils ont des résolutions très élevées, avec la HD, tout ça, on peut arriver à projeter chaque couche avec une résolution très élevée. On arrive à des couches qui ont une résolution de 50 microns. C'est très petit, quoi.
C'est 50 microns.
50 microns.
Voilà.
Voilà. Donc, je reprends. Alors, mon historique de la RepRap. Donc, RepRap. En 2005, on a à l'université de Bath en Angleterre, Adrian Bowyer, qui est un professeur spécialisé dans la tribologie. Alors, qu'est-ce que la tribologie ? C'est l'étude des frottements, de l'usure et de la lubrification. Donc lui, il a mené une réflexion sur les moyens de production, c'est-à-dire comment se réapproprier les moyens de production, comment mixer le constructeur universel dont j'ai parlé, ce prototypage rapide, ce nouveau mouvement qui est l'Arduino avec l'Open Hardware. Donc en fait, il est parti sur l'idée d'une imprimante autorépliquante, facile à fabriquer, donc que tout le monde puisse aller au Castorama du coin, acheter le matériel et puis se la construire chez lui. Et comme elle est autorépliquante, que chacun puisse fabriquer des imprimantes à d'autres personnes, et un peu à la manière d'un virus, que cela se propage très rapidement. Donc, il a lancé ce projet en 2005. Fin 2006, il a eu un premier prototype qui a marché. Donc là, à partir de ce moment-là, tout le monde a dit « Ah oui, ben, c'est une utopie qui devient réaliste. » Et tout le monde a vu que ça marchait, donc tout le monde s'est lancé sur ce projet. Et donc, à partir de 2008, on a eu la première machine qui a pu écrire une autre machine. Et à partir de là, en 2009, ça a été tellement rapide la reproduction de ces machines qu'ils ne savaient plus du tout combien il y avait de machines au monde qui avaient été faites.
Sachant qu'il y a eu des projets qui ont forqué, qui ont dérivé de ce projet initial entre-temps.
Voilà. Alors moi quand j'ai commencé à travailler dessus...
À l'époque...
Dans le temps, c'était quoi, fin 2010, pour se payer les pièces de cette machine, ça coûtait 400 euros sur eBay, donc des pièces toutes simples en plastique, parce qu'il y avait très peu de monde qui possédait ces machines, et donc bon, c'est l'offre et la demande. Et donc moi, pour me faire mon premier modèle, j'ai fabriqué de briques et de broc une première machine qui m'a permis de fabriquer les premières pièces. Mais très vite, en l'espace de un an, on est passé de 400 euros à 70 euros le lot de pièces. Donc,
machine type, je te coupe, hein, je suis désolé, pour une machine de type RepRap, c'est ça ?
Voilà, alors une RepRap Prusa. Alors, on a différents modèles. On a le premier modèle qui s'appelle Darwin. En général, il donne des noms de biologistes connus. Donc, on a Darwin, la théorie de l'évolution. Après, on a Mendel, qui a un modèle qui a été carrément épuré, beaucoup plus simple à fabriquer, à monter. Et enfin, après, le gros modèle qui est arrivé, c'est la Prusa. Ça a été fait par un DJ russe, qui donc n'a rien à voir dans la technique ni dans la 3D, qui a fait son propre modèle, et il est parti en fait, il appelle la Ford T de l'imprimante. Et là, c'est à partir de ce modèle-là, il y a vraiment une explosion, parce qu'elle était vraiment simple à réaliser et coûtait très peu cher. Et maintenant, à partir de maintenant, je sais pas combien il y a de modèles. Tout un chacun peut faire son propre modèle, quoi.
Sachant qu'il y a des modèles qui sont un peu plus répandus et un peu plus connus, comme les Ultimakers qui apportaient une vitesse supérieure, etc.
Voilà, après, forcément, il y a eu tout un écosystème qui s'est développé sur ce biais-là. On a eu plein de boîtes privées qui sont restés quand même dans l'open source et qui ont fait des modèles open source. On a eu MakerBot, ce sont des Américains qui ont fait la première imprimante commerciale, mais qui ont quand même gardé cette, euh, cette vision open source et de laisser les plans libres. Et après, plus récemment, on a Ultimaker. Donc nous, au Theta Lab, on possède une Ultimaker qui a l'avantage d'être très rapide et très 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 précise. Et ensuite, ben, y a eu plein de gens qui se sont lancés dans leur propre commerce et qui ont fait exploser l'économie autour de cette imprimante 3D. Donc ensuite, il y a eu aussi partir là. Ça se limite pas juste à imprimer des babioles chez soi. Après, il y a des laboratoires qui ont pris cette technologie et qui sont en train de développer des imprimantes à tissu. C'est-à-dire, on est grand brûlé, on peut imprimer de la peau. On peut imprimer des prothèses en Afrique pour des gens qui ont besoin des prothèses au lieu de les faire venir ou de les faire fabriquer. Et on peut faire des prothèses qui sont adaptées à tout un chacun. Ça veut dire aussi, on peut avoir une machine, vu qu'elle coûte très peu cher, on va se débarrasser de tous les moyens, je vais dire capitalistes, de produire actuellement. C'est-à-dire, on a une société qui est souvent en Europe ou aux États-Unis qui va commander en Chine un produit. Ce produit va être fait je ne sais comment avec je ne sais quel produit. Et il va devoir retraverser la planète pour être revendu. Là, on a un objet, un fichier 3D qui peut être partagé par tout le monde sur Internet. Et là, on a par exemple le site qui s'appelle Thingiverse qui permet de partager ces modèles 3D. Donc moi, je peux tous les objets que j'ai faits, je les partage sur Thingiverse. Les gens peuvent les télécharger, peuvent les modifier. C'est ça qui est génial. Donc oui, j'en étais sur le truc capitaliste. Donc il faut voir ça. Même si on fabrique à l'unité, on a une grosse réduction de coûts. Et après, il y a tout ce qui est empreinte carbone, puisqu'on n'a pas ça pas à faire le tour de la planète pour venir jusqu'ici. Et surtout, après, ça va paraître fou, mais c'est écolo, parce qu'on utilise actuellement du plastique qui s'appelle le PLA, qui est de l'acide polylactique et qui est le plus souvent fait avec du maïs. Donc c'est du plastique qui est biodégradable. Si on a envie, on peut le manger, mais bon, c'est pas très bon. Et qui a une résistance mécanique qui est tout à fait acceptable. Donc, ouais, c'est assez écolo. Et puis surtout, si, mettons, moi, je prends à chaque fois cet exemple, j'ai ma machine à laver, j'avais le sélecteur de lavage qui s'est cassé au bout d'une semaine. C'est le genre de choses, on ne peut pas l'acheter, ou sinon il faut racheter tout le bloc avec le programmateur, tout ça. Bah, j'ai pris les cotes de mon sélecteur, je me le suis imprimé, et depuis maintenant un an et demi, il tient toujours. S'il se casse, je peux le réimprimer. Mais là, ce qui est encore mieux, si quelqu'un de l'autre côté de la planète a le même modèle de machine à laver ou un autre, il peut télécharger ce fichier et se l'imprimer. Donc on va lutter contre ce qu'on appelle l'obsolescence programmée, c'est-à-dire faire un produit qui dure pas longtemps. Donc par exemple, les ampoules, quand ça a été créé, les premières ampoules qui ont existé au début du XXe siècle, il y en a qui sont encore en cours d'activité, qui éclairent toujours. Et bien après, ils se sont rendus compte que pour eux, c'était pas rentable, donc ils ont réduit la vie volontairement des ampoules à 1000 heures.
Alors, moi, je me pose des questions par rapport à ça. Si je prends ça d'un point de vue bas de chez bas, quoi. La situation est simple. Donc, j'ai été voir ça, j'ai été traîner un peu sur le internet avec mes enfants, puis j'ai vu qu'il y avait des imprimantes qui imprimaient des objets en 3D. Et je me dis, oh, c'est super, parce que du coup, j'ai plus à acheter des trucs. Alors, si je veux acheter ça... Donc, j'ai pas du tout l'esprit bidouille, etc. Hein, je suis pas du tout dans l'esprit hacker ou maker. À quoi ça peut me servir en fait ? Est-ce que je peux imprimer des objets du quotidien ? Est-ce que c'est solide ? Qu'est-ce que je peux faire avec ça ?
Alors, les possibilités sont infinies. Donc, déjà, il y a s'amuser avec, découvrir. On peut découvrir la 3D, découvrir que faire un objet en 3D, c'est pas difficile. Mais après, les possibilités, c'est réparer des choses. C'est créer des choses. Voilà, puis bon, après, il y a l'aspect récréatif de cette nouvelle technologie. Bon, après, elle est actuellement, si on veut, mettons, imprimer une voiture, ce ne sera pas possible. Mais d'ici 20-30 ans, s'il faut, ça sera possible. La techno, elle a évolué très 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 vite. Et donc, on va sur une simplification du montage de l'imprimante et de l'utilisation. Et donc, si mettons, on est calé en bidouille ou on est un tant soit peu bricoleur, on peut choisir de faire une rep-rap en trouvant les éléments au marchand, au Castorama du coin. Sinon, on peut très bien acheter un kit tout fait. Et là, si on sait monter un meuble IKEA, je pense qu'on peut y arriver, quoi.
D'accord. Et on parlait du côté écolo, en fait. J'avais vaguement entendu parler. Il y a les petits gars de chez Usinette qui ont fait. Et oui, je te ramène à ta fiche. Hein, c'est super. Donc il y a les petits gars de chez Usinette, mais en fait ça s'était pas vu. Qui eux en fait se sont dit c'est bien d'imprimer des objets, mais ce serait bien en fait de pouvoir recycler nous-mêmes du plastique pour pouvoir ensuite réimprimer des objets et donc revenir en fait un peu en amont de la boucle. Production.
Oui, eux, en fait, ils sont partis sur le fait que déjà, en utilisant nos imprimantes, on a plein de déchets parce que on rate toujours des impressions en bidouille. Et eux, ils sont allés en fait au Sénégal où il y a une volonté de mettre en place ces machines-là. Et en fait, ils ont travaillé avec des Sénégalais à l'élaboration d'une machine pour recycler les plastiques qu'eux trouvent sur place. Parce qu'une bobine de fil que nous on utilise, on l'achète sur internet. Pour nous, ça, on voit pas ça comme très cher, quoi. Mais là-bas, ça, forcément, ça coûte beaucoup plus cher. Et ils ont plein d'ordures qui traînent partout, des gobelets en plastique, des poches plastiques, des bouchons, tout ça. Donc, ils sont allés là-bas et avec eux, ils ont expérimenté différents plastiques. Un modèle de, en fait, c'est une broyeuse. C'est simplement c'est un tuyau avec une tarière de, enfin une grosse mèche à bois dans lequel va être fondu le plastique et va ressortir sous forme de filament. Donc ils ont fait plein de tests sur les gobelets en plastique et ça a l'air d'avoir porté ses fruits et là-bas les Sénégalais continuent l'expérimentation, quoi.
D'accord, donc c'est bien, on va bientôt pouvoir recycler des objets qu'on a imprimés. Merci Florent, voilà. Pour ce dossier imprimante 3D qui était passionnant. Donc avant donc de dire l'agenda, de partir, etc. Oui, c'est l'heure, oui, j'ai une minute. Donc on tient à remercier les personnes qui étaient présentes au THSF.
Oui.
Et de leur dire, voilà, ça a été, d'après le retour, ça a été un très bon événement. Et donc, c'est aussi grâce à vous. Hein. Merci encore. Ensuite, donc, parmi les événements à venir, le 14 juin, donc, il y a une soirée lancement de la revue Multiprise avec le Theta Lab et l'Atelier 2000.
Donc, il y aura lieu demain soir au Jardin du Château d'Eau en bas du Pont Neuf, juste à côté de Rio Loco, à partir de 18h30 jusqu'à minuit. Et vous pourrez voir des installations du Theta Lab et voilà, voir le lancement du magazine Multiprise.
D'accord.
Voilà, donc l'URL c'est revue-multiprise.com. Enfin, vous pouvez aussi utiliser votre moteur de recherche préféré.
canadsud.thetalab.org, vous aurez tous les liens.
Voilà, d'ailleurs, est-ce qu'il y a des questions sur le pad ?
Pas de questions.
Il n'y en a pas, bon, c'est cool, vous êtes sages aujourd'hui, c'est super bien, ou alors vous n'êtes pas du tout nombreux. Donc le samedi 23 juin, il y a une démo d'impression 3D à la médiathèque, médiathèque José Cabanis.
Voilà. Oui. Je crois que c'est l'après-midi, hein, le samedi.
C'est l'après-midi, ouais.
Donc on amènera nos imprimantes, si elles veulent bien marcher. Et donc on fera des démos, peut-être des ateliers d'initiation à la 3D, au logiciel SketchUp pour imprimer les modèles que les gens ont pu créer sous SketchUp.
Ouais. Et vous verrez donc l'imprimante de Florent qui sera présente et qui imprimera tout quoi vous voulez. Deux events qu'il y aura donc cet été, puis après je termine parce que ça va être l'heure. Le premier, c'est qu'en 2010, il y avait eu des estives numériques qui s'étaient passées à Saint-Born au-dessus de Nice, donc dans la montagne, et cette année ça se refait. Ce sera un petit peu plus roots que la dernière fois.
Ou pas,
ça va dépendre en fait des conférenciers, de ce qui s'y passe. Ouais. Donc ce serait une semaine.
Donc ce sera du 12 au 22 août à Padoue, donc c'est de l'autre côté de la vallée je crois par rapport à la dernière fois, dans les Alpes-Maritimes. Donc voilà, il y a un site, c'est apadoulou.wordpress.com où vous aurez tous les détails pour y aller, pour savoir le programme et tout ça.
Voilà, et vous pourrez apprendre quoi faire de super avec votre compost. Deuxième élément, deuxième event qu'il y a donc rapidement cet été, c'est le French Hack Lab Summer Camp qui se tiendra du 27 au 30 juillet à côté de Toulouse. Lille a été déplacé, ça devait être pas loin de Valence. Et donc du coup ce sera là-bas. Donc vous regardez sur fhsc.lyonopenlab.net et l'événement est en cours d'organisation, il y a un appel à conférence qui se fait, atelier, etc. Donc pour toutes les personnes intéressées, on compte sur vous. Voilà. Donc
je dis, eh ben merci, et à dans trois semaines.
Et à dans 3 semaines. Bon après-midi.